2. Narnihin Urin. La geste des enfants de Urin. L'enfance de Turin. Ador, chef doré, était un seigneur des Edain et très aimé des Eldar. Il vécut les jours qui lui furent alloués sous la suzeraineté de Fingolfin, qui lui octroya de vastes domaines dans cette région du Ithlum que l'on nomme le Dorlomin. Sa fille Gloredel épousa Aldir, fils de Almir, seigneur des hommes de Brethil. Et au cours des mêmes festivités, Galdor le Grand prit pour femme Aref, fille de Almir. Galdor et Aref eurent deux fils, Urin et Uor. Urin était l'aîné de 3 ans, mais il était plus court de taille que les autres hommes de son peuple. En cela, il tenait de la lignée de sa mère, mais pour tout le reste, il ressemblait à Ador, son grand-père, étant clair de visage et blond de cheveux, et bâti en force et l'âme ardente. Mais le feu dans son âme brûlait avec constance, et il était persévérant en son vouloir. De tous les hommes du Nord, il en savait le plus long sur les desseins des Noldor. Uor, son frère, était de haute taille, le plus grand de tous les Edain, à l'exception de son propre fils Tuor, et un coureur rapide. Mais si la course était longue et dure, c'était Urin qui touchait au but le premier, car il courait d'une foulée égale du commencement à la fin. Les frères s'aimaient d'amour tendre, et dans leur jeunesse, on les voyait rarement séparés l'un de l'autre. Urin épousa Morwen, fille de Baragund, fils de Bregolas, de la maison de Beor. Par là, elle était proche parente de Beren Unma. Morwen était noire de cheveux et élancée, et tels étaient l'éclat de ses prunelles et la beauté de son visage que les hommes l'appelaient Elédouen, lustre des elfes. Mais elle était d'humeur plutôt sombre et fière. Les malheurs de la maison de Beor attristaient son cœur, car c'est exilée du Dorthonion qu'elle était venue au Dorlomin après le désastre de la Bragolac. Le fils aîné de Urin et de Morwen se nommait Turin, et il était né en cette année où Beren vint au Doriath et trouva Luthien Tinuviel, fille de Thingol. Morwen donna aussi une fille à Urin, et elle fut nommée Urwen. Mais tous ceux qui la connurent durant sa courte existence l'appelaient Laleth, le rire. Uor épousa Ariane, la cousine de Morwen. Elle était fille de Belégund, fils de Bregolas. Ce fut un sort cruel qui la fit naître en ces jours d'affliction, car elle était douce de cœur et ne goûtait ni la chasse ni la guerre. Tout son amour allait aux arbres et aux fleurs sauvages, et volontiers elle chantait et elle composait des chansons. Elle n'avait été mariée à Uor que 2 mois lorsqu'il partit avec son frère pour les Nirnaeth Arnoediad, et jamais plus elle ne le revit. Dans les années qui suivirent la Dagor Bragolac et la chute de Fingolfin, l'ombre terrifiante de Morgoth s'allongea. Mais en l'année 469 après le retour des Noldor en terre du milieu, l'espoir se ranima parmi les elfes et les hommes, car ils eurent vent des hauts faits de Beren et de Luthien et de l'humiliation infligée à Morgoth alors même qu'il siégeait sur son trône d'Angband, et il y en avait qui soutenaient que Beren et Luthien vivaient encore ou qu'ils étaient revenus d'entre les morts. Et en cette année-là, les grands desseins de Maedros furent prêts de s'accomplir, et la force renaissante des Eldar et des Edain repoussa l'avance de Morgoth, et les orques furent chassés du Beleriand. Et certains se prirent alors à parler de victoire à venir et d'une revanche imminente sur la bataille de la Bragolac, et ils disaient que l'on allait voir Maedros à la tête des armées coalisées, refouler Morgoth sous terre et sceller les portes d'Angband. Mais les plus sages étaient dans l'inquiétude toujours, craignant que Maedros ne révélât trop tôt sa force croissante et qu'on donnât à Morgoth le temps de se préparer à l'affronter. « Toujours quelque nouveau mal s'en va éclore à Angband, que ni elfe ni homme ne saurait prévoir, » disait-il. Et à l'automne de cette année-là, comme pour corroborer leurs paroles, voilà qu'un mauvais vent se mit à souffler du nord, sous des cieux de plomb. Et on l'appela le souffle pernicieux, car il était pestilentiel, et nombreux furent ceux qui prirent la maladie et moururent à l'automne de l'année, en cet air septentrional qui longeait l'Anfauglith, et c'était pour la plupart des enfants ou des jeunes gens, la future vigueur des maisons des hommes. En cette année, Turin, fils de Urin, n'avait guère que 5 ans, et Urwen, sa sœur, eut ses 3 ans au début du printemps. Lorsqu'elle courait dans l'herbe, ses cheveux étaient d'or comme les jonquilles des prés, et son rire était comme le joyeux babil du ruisseau qui sourciait des collines, non loin des murs de la maison de son père. Nen la Leth appelait-on ce ruisseau, et en son honneur, tous les gens de la maison appelèrent l'enfant la Leth, et leur cœur se réjouissait lorsqu'elle était parmi eux. Mais on aimait Turin moins bien qu'elle. Il était noir de cheveux, comme sa mère, et promettait d'être de même disposition, car il n'avait pas l'humeur joyeuse, et il parlait peu, bien qu'il apprît à parler très tôt, et qu'il parut toujours plus vieux que son âge. À Turin, il fallait du temps pour pardonner une injustice ou une moquerie. Mais le feu de son père l'habitait également, et il pouvait être brusque et violent. Et cependant, il était prompt à s'apitoyer, et les souffrances ou chagrins des créatures vivantes l'émouvaient aux larmes. Et en cela encore, il ressemblait à son père, car Morwen était aussi dure envers autrui qu'elle l'était envers elle-même. Il aimait sa mère, car elle lui parlait sérieusement et sans détour, mais il voyait peu son père, car Urin était souvent absent de chez lui pour de longues périodes avec l'armée de Fingon qui gardait les frontières orientales du Hithlum, et lorsqu'il revenait, sa parole abrupte, pleine d'expressions étrangères et de bons mots et de demi-mots, troublait Turin et le mettait mal à l'aise. À cette époque, toute la chaleur de son cœur allait à Laleth, sa sœur. Mais il jouait rarement avec elle, et préférait la surveiller en cachette, tandis qu'elle foulait l'herbe et passait sous les arbres, chantant les chansons telles qu'en inventaient autrefois les enfants des Edain, lorsque la langue des elfes était encore neuve sur leurs lèvres. « Belle comme une enfant des elfes est Laleth, » disait Urin à Morwen. Mais plus éphémère, hélas, et peut-être plus belle ainsi, et plus chérie encore. » Et entendant ces mots, Turin se prit à songer, mais ne les put comprendre, car il n'avait jamais vu d'enfant des elfes. Aucun des Eldar ne vivait à l'époque sur les terres de son père, et il ne les avait entrevus qu'une seule fois, lorsque le roi Fingon avait chevauché à travers le Dorlomine, escorté d'une foule de seigneurs, et que tout étincelant d'argent et de blanc, ils avaient franchi le pont du Nen Laleth. Mais avant que ne s'achevât l'année, les paroles de son père se vérifièrent, car le souffle pernicieux atteignit le Dorlomine, et Turin tomba malade et demeura longtemps couché avec de la fièvre et en proie à un rêve ténébreux. Et lorsqu'il fut guéri, car tel était son destin et telle la force de vie en lui, il demanda à voir Laleth, et sa nourrice répondit « Tu ne dois plus parler de Laleth, fils de Urin, mais va-t'en demander à ta mère des nouvelles de ta sœur Urwen. » Et lorsque Morwen vint à lui, Turin lui dit « Je ne suis plus malade, et je voudrais voir Urwen. Mais pourquoi ne dois-je plus dire Laleth ?»« Parce que Urwen est morte, et que le rire ne résonne plus en cette demeure, » répondit-elle. « Mais tu vis, toi, fils de Morwen. » Et l'ennemi qui nous a fait cela est en vie, lui aussi. » Elle ne chercha pas à le consoler, non plus qu'elle ne chercha elle-même consolation, car elle prenait son chagrin dans le silence et la froidure de son cœur. Mais Urin se lamenta ouvertement, et il prit sa harpe, et il voulut faire un traîne, mais il ne le put. Et il brisa sa harpe, et sortant dehors, il brandit le poing vers le nord, criant « Toi qui as marié la terre du milieu !» Que l'on me permette de te rencontrer face à face, et alors je te marquerai, comme le fit Monseigneur Fingolfin. » Et Turin pleura amèrement la nuit tout seul, bien que devant Morwen, il ne prononça jamais plus le nom de sa sœur. En ce temps-là, il ne recherchait la compagnie que d'un seul ami, et à celui-ci il parla de son chagrin et du vide de la maison. Cet ami s'appelait Sador, et c'était un domestique au service de Urin. Il était infirme et homme de peu. Il avait été forestier, et par malchance ou maladresse dans le maniement de la hache, il s'était tranché le pied droit, et la jambe privée de pied avait raccourci. Et Turin l'appelait Labadal, ce qui veut dire « cloche-pied ». Mais le nom ne contrariait pas Sador, parce qu'il lui était donné par pitié et non par moquerie. Sador travaillait dans les dépendances pour fabriquer ou réparer les humbles objets d'usage dont on avait besoin dans la maison, car il était assez habile à travailler le bois. Iturin lui procurait ce qui lui manquait afin d'épargner sa pauvre jambe. Et parfois, il emportait en cachette quelque outil ou pièce de bois qu'il trouvait à l'abandon s'il pensait que son ami en aurait l'emploi. Alors Sador souriait, mais il lui enjoignait de remettre ses cadeaux en place. « Donne à pleine main, mais donne seulement ce qui est à toi, » disait-il. Il récompensait comme il le pouvait la bonté de l'enfant et lui sculptait des figurines d'hommes et de bêtes. Mais Turin s'enchantait surtout des récits de Sador, car il avait été jeune homme à l'époque de la Bragolac et aimait s'attarder sur les jours brefs où il avait été un homme en pleine possession de ses moyens avant son accident. « Ce fut là, dit-on, une grande bataille, fils de Hurin. Tels furent les besoins cette année-là que l'on m'arracha à mes besognes forestières, mais je n'ai pas participé à la Bragolac, où j'aurais pu être tout aussi bien mutilé, mais avec plus d'honneur. Car nous arrivâmes trop tard, sinon pour emporter le cercueil du vieux seigneur Hador, qui tomba en protégeant le roi Fingolfin. Là-dessus, je m'en allai soldat, et je fus en garnison à Aethel Sirion, la grande forteresse des rois elfes, pour de nombreuses années, du moins à ce qu'il me semble aujourd'hui, car les mornes années qui se sont écoulées depuis ont bien peu pour les rehausser. J'étais à Aethel Sirion lorsque le roi noir l'a assailli, et Galdor, le père de ton père, était capitaine là-bas au nom du roi. Il fut tué durant l'attaque, et je vis ton père assumer son titre et son commandement, bien qu'il ait alors tout juste atteint l'âge d'homme. Il y avait un feu en lui qui, disait-on, rendait son épée ardente dans sa main. À sa suite, nous refoulâmes les orques vers les sables, et jamais plus ils n'ont osé se montrer en vue de ces murs. Mais hélas, mon amour des combats était rassasié, car j'avais vu assez de sang versé et de blessures, et on m'accorda de revenir aux forêts dont je me languissais. Et c'est là que je reçus mon mauvais coup, car un homme qui fuit sa peur peut bien découvrir qu'il n'a fait qu'emprunter un raccourci pour la retrouver. »
Ainsi parlait Sador à Turin qui grandissait. Et Turin commença à poser un grand nombre de questions auxquelles Sador avait peine à répondre, songeant qu'il appartenait à sa plus proche famille de l'instruire. Et un jour Turin lui dit « L'Aleth était-elle vraiment pareille à une enfant des elfes, comme l'a dit mon père ? Et que voulait-il dire lorsqu'il a dit qu'elle était plus éphémère ?»«
Toute pareille, » dit Sador, « car dans leur jeunesse, les enfants des hommes et ceux des elfes semblent proches parents. Mais les enfants des hommes grandissent plus vite, et leur jeunesse passe rapidement. Tel est notre destin. »
Alors Turin lui demanda, « Qu'est-ce que le destin ?»
Quant au destin des hommes, dit Sador, il te faut interroger ceux qui en savent plus long que l'Abadal. Mais comme tout le monde peut voir, nous nous épuisons vite et nous mourrons. Et nombreux sont ceux qui, par malchance, rencontrent la mort plus tôt encore. Mais les elfes, eux, ne s'épuisent pas, et ils ne meurent pas, sinon de coups inouïs. Des blessures et des chagrins qui tueraient les hommes, ils peuvent guérir. Et alors même que leur corps est brisé, ils recouvrent vie, disent certains. Il n'en va pas ainsi pour nous.
Alors l'Aleth ne reviendra pas, dit Turin. Où est-elle donc partie?
Elle ne reviendra pas, dit Sador. Mais où elle est partie, nul homme ne le sait, ou moi du moins, je l'ignore.
Et cela a toujours été comme cela? Ou souffrons-nous de la malédiction du roi malfaisant, peut-être, comme il en est du souffle pernicieux?
Je ne sais pas. Derrière nous s'étend une ombre, et de cette ombre, peu de récits ont émergé. Les pères de nos pères ont pu avoir des choses à raconter, mais ils n'ont rien dit. Leur nom même est oublié. Les montagnes se dressent entre nous et la vie dont ils émergèrent, fuyant on ne sait quoi.
Est-ce qu'ils avaient peur? Dit Turin.
Peut-être, dit Sador. Il peut se faire que nous ayons fui la peur des ténèbres seulement pour les retrouver ici-bas devant nous, et nulle part où fuir ailleurs, sinon vers la mer.
Nous n'avons plus peur, dit Turin. Nous n'avons pas tous peur. Mon père n'a pas peur, et je n'aurai pas peur. Ou du moins, comme ma mère, j'aurai peur, mais je ne le montrerai pas.
Il sembla alors à Sador que les yeux de Turin n'étaient pas ceux d'un enfant. Et il songea à part lui, « Le chagrin affût un esprit robuste. » Mais à haute voix, il dit, « Fils de Hurin et de Morwen, comment il en sera de ton cœur, la Badal ne le peut deviner. Mais à de rares moments et à de rares gens, montreras-tu ce qu'il contient. »
Alors Turin dit, « Peut-être vaut-il mieux ne pas dire ce que l'on souhaite, si on ne peut l'obtenir. Mais je souhaite, la Badal, être l'un des Eldar. Alors, la Leth pourrait revenir et je serai encore ici, même si elle demeurait longtemps absente. Je me ferai soldat à la suite d'un roi elfe dès que je le pourrai, comme tu l'as fait, la Badal. »
« Tu apprendras d'eux bien des choses, » dit Sador. Et il soupira. « Ce sont des gens d'une grande beauté et merveilleux, et ils ont pouvoir sur le cœur des hommes. Et cependant, je me prends parfois à penser qu'il aurait peut-être mieux valu que nous ne les ayons jamais rencontrés, mais ayons persisté dans notre humble voie. Car ils détiennent un savoir déjà ancien, et ils sont fiers et endurants. À leur lumière, nous paraissons ternes, ou nous brûlons d'une vive flamme qui trop rapidement se consume, et le poids de notre destinée pèse sur nous d'autant.
« Mais mon père les aime, » dit Turin, « et il n'est pas heureux sans eux. Il dit que d'eux, nous avons appris presque tout ce que nous savons, et qu'à les fréquenter, nous avons gagné en noblesse. Et il dit que les hommes qui sont venus récemment de par-delà les montagnes ne valent guère mieux que des orques.
« Cela est vrai, » dit Sador. « Vrai au moins de certains d'entre nous, mais s'élever est pénible, et de ces hauteurs, il est facile de retomber au plus bas.